Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Révolution énergétique, le premier podcast entièrement dédié aux énergies bas carbone et à la transition énergétique. Pour notre tout premier épisode, je reçois Cédric Philibert, spécialiste de l'énergie et du climat. Il a travaillé près de 20 ans à l'Agence internationale de l'énergie. Bonjour Cédric.
Bonjour Hugo.
Merci d'être notre tout premier invité. Nos lecteurs vous connaissent peut-être déjà, parce que vous publiez de temps en temps sur Révolution énergétique des articles extrêmement intéressants, je précise. Mais si on vous reçoit aujourd'hui, c'est surtout parce que vous venez de publier un livre qui s'appelle Éolienne, pourquoi tant de haine? Et c'est une question on ne peut plus actuelle. Il y a un acharnement qui est vraiment impressionnant contre l'éolien, notamment sur les réseaux sociaux, mais surtout venant de la part de personnalités politiques, de partis politiques, et encore plus étonnant, la critique elle vient aussi de scientifiques, je pense notamment au très médiatique ingénieur Jean-Marc Jancovici. Alors le principal argument des opposants, on entend vraiment souvent, c'est l'intermittence de la production éolienne. Comme la production varie en fonction du vent et non des besoins en électricité, l'éolien ne servirait à rien ou à pas grand-chose au regard de l'argent qu'on y met en tout cas. Est-ce que cet argument, il tient la route d'un point de vue purement technique, Cédric Philibert?
Non, bien sûr que non. On va prendre l'exemple de l'Allemagne qui est si souvent décriée dans sa transition énergétique. Mmh. En 2022, le solaire et l'éolien ont produit 43% de l'électricité allemande. Voilà, c'est quand même tout à fait considérable et ça a permis, alors sur la longue durée évidemment, il faut pas regarder d'une année sur l'autre les petites modifications qui sont par exemple dues à un petit événement extérieur genre la guerre en Ukraine qui a interrompu le gaz et obligé à remettre un peu plus de charbon dans le mix, mais si on regarde sur la longue durée de 2020 à 2021, on voit que le charbon en Allemagne a reculé de 35% et c'est fondamentalement pas grâce au nucléaire, puisqu'il en même temps, lui, il a reculé de 50%, c'est fondamentalement grâce à la progression des énergies renouvelables. Donc, intermittence ou pas, ça produit de l'électricité, beaucoup d'électricité bas carbone, et ça permet essentiellement de déplacer des fossiles. Alors, c'est vrai qu'en France, on est dans un cas un peu particulier, parce oui. que notre mix étant encore assez fortement nucléaire, si on se base sur le mix français, apparemment, ça déplacerait plutôt du nucléaire. En réalité, comme on est interconnecté, on s'aperçoit que les éoliennes chez nous déplacent aussi des énergies fossiles ailleurs en Europe. Oui. Évidemment, ça, c'est un argument que certains n'acceptent pas parce qu'ils disent « Ah, ben, c'est pas à nous de déplacer le charbon en Pologne ». Voilà. Mais en fait, on est interconnecté, on est solidaire, on est dans l'Europe, on a été bien content l'été dernier d'avoir de l'électricité qui venait d'un peu partout en Europe parce que nous on était trop court à cause des défaillances de notre programme nucléaire et par ailleurs enfin de nos centrales historiques et par ailleurs à cause d'une hydraulicité un peu plus faible que d'habitude. Donc on est bien content quand ça nous arrange d'importer de l'électricité, on est bien content aussi d'en exporter parce qu'on gagne de l'argent avec. Donc voilà, il faut arrêter avec ça et constater que l'éolien et le solaire, tout intermittent ou variable soit-il, ils produisent beaucoup d'électricité.
Ben justement, vous preniez tout à l'heure l'exemple allemand. Souvent, les opposants à l'éolien ils disent ben, regardez les Allemands, l'explosion du parc éolien et solaire là-bas ne permet pas d'avoir un pays qui est décarboné, qui a une production électrique décarbonée. Et c'est vrai, aujourd'hui, quand on compare l'intensité carbone de l'électricité en Allemagne et en France, et bien celle de l'Allemagne est beaucoup plus élevée que la France parce que malgré les 65 gigawatts d'éolien installés, on a toujours beaucoup de charbon et beaucoup de gaz en backup. Est-ce que là aussi, c'est un argument pertinent?
Alors, non, on n'a pas du charbon et du gaz en backup. On a du gaz et du charbon parce qu'avant, on avait essentiellement du gaz et du charbon dans ce mix et simplement, le solaire et l'éolien ont permis de le réduire. Ce que j'accepte de dire avec certains critiques, c'est que si les Allemands n'avaient pas voulu en même temps sortir de l'énergie nucléaire, ils auraient pu sortir plus vite de l'énergie fossile. Ça, c'est tout à fait juste et c'est une critique qu'on peut leur faire si on veut. Voilà, le solaire et l'éolien, en fait, ont réduit, je vous dis, de 35% la consommation de charbon en Allemagne, et ça n'a pas été remplacé par du gaz sur la longue durée, toujours 2020-2021. Il y a une toute petite augmentation du gaz, genre 4%, donc ce n'est pas le gaz qui a remplacé le charbon, c'est d'abord les renouvelables.
Parce que ça, le gaz qui compenserait la fluctuation de l'éolien, c'est une critique qui est assez universelle, qui n'a pas de frontières. En France aussi, on pense que le gaz compense immédiatement les fluctuations de la production éolienne. Est-ce que c'est une réalité, ça, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de le faire?
Alors, non, il y a un fond de réalité là. Il y a un fond de réalité qui est que si on voulait arriver à 100%, s'approcher de 100% de renouvelables, vient un moment où il faut quand même des centrales thermiques pour faire face aux quelques périodes dans l'année, généralement en hiver, où il y a peu de vent et peu de solaire. Donc là, c'est vrai, il faut des centrales de backup, mais aujourd'hui, la consommation de gaz en Allemagne et de charbon est très au-delà des besoins de backup. C'est pas du tout de ça dont il est question pour l'instant. Ce dont il est question, c'est d'une transition énergétique qui est au milieu du gué, qui a commencé, mais qui n'est pas achevée. Je vous disais, on est à 43%. L'objectif des Allemands, c'est d'arriver à 80% avec les renouvelables. Et en fait, on peut montrer qu'on peut arriver tout près de 100% avec un tout petit peu de gaz fossile. Si je prends l'étude RTE, Futur énergétique 2050, je peux voir que en 2050, pour 645 TWh de consommation d'électricité, en moyenne, 16,5 seraient produits par consommation d'un gaz, on va voir lequel, dans des centrales thermiques. Donc il faut des centrales thermiques et il en faut un certain nombre, mais la quantité d'énergie produite sera quand même très faible, 2,5% du total de la consommation.
D'accord.
Et les émissions de CO2, si on prend du gaz fossile, sont liées aux quantités de gaz qu'on met dans les centrales et non pas au nombre de centrales. Donc ces centrales auront des facteurs de charge très faibles. Tout ça fait, c'est un coût évident, hein, parce qu'on a des centrales électriques qui marchent très peu de temps dans l'année. C'est pour ça qu'on prend les centrales à gaz, c'est les moins chères hors combustible, c'est moins cher à construire. Voilà. Donc il y a un fond de vérité, évidemment, mais fondamentalement, c'est quand même pas vrai. Voilà. Si je peux
Mais
m'exprimer comme ça.
est-ce qu'il y a d'autres alternatives au gaz? Est-ce que là, ce que vous me dites, ça veut dire que finalement, un mix 100% ENR n'est pas vraiment envisageable. Il faut toujours donc un fond, un bruit de fond de gaz. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions moins carbonées?
Alors, si. Non, mais si, bien sûr. Non, mais j'ai pris le cas du gaz fossile. C'est quand même intéressant parce que ça veut dire que dans ce scénario RTE de 2050, il faut quand même voir qu'il y a moins d'émissions de CO2 que dans notre mix actuel. Hein?
D'accord.
Donc, il faut quand même remettre les choses à leur place. Le but du jeu, si vous voulez, c'est pas forcément d'ailleurs d'arriver à 100% zéro carbone sur l'électricité. Le but du jeu, c'est d'arriver à zéro émission nette sur l'ensemble de l'économie. Et quand je dis on est à 645 TWh dans un scénario en 2050, c'est un scénario net zéro émission au niveau du pays tout entier. C'est-à-dire que de l'électricité propre aura déplacé, supprimé les consommations de combustibles fossiles dans les bâtiments, l'industrie et les transports. Et c'est ça qui sont, c'est là où la France a encore des émissions massives et une dépendance à l'étranger massive. Ce qu'oublie la commission parlementaire sur la souveraineté et l'indépendance énergétique de la France. Et si on ne s'intéresse qu'à l'électricité, on finit par dire des grosses bêtises. Il faut vraiment regarder l'ensemble du tableau et l'ensemble des consommations fossiles. Cela dit, dès lors qu'on arrive à des quantités d'énergie qui sont finalement très faibles, hein, je vous disais 16,5 TWh en 2050 qui doivent venir de centrales thermiques, on peut songer à utiliser soit du biogaz, soit de l'hydrogène, hydrogène qui serait fabriqué en été notamment, dans les périodes où on a trop d'électricité renouvelable, et plutôt que de la dissiper, on pourrait l'utiliser dans des électrolyseurs pour faire de l'hydrogène, stocker cet hydrogène et l'utiliser en hiver quand on a un une période très creuse de la production éolienne et solaire. C'est assez cher, on va pas se raconter des blagues, mais encore une fois, il s'agit de quantités toutes petites, donc c'est tout à fait envisageable.
Au-delà de ce que vous venez de citer comme solution, dans votre livre, vous parlez aussi de foisonnement. Alors le concept du foisonnement, c'est d'imaginer que lorsqu'un parc éolien, par exemple dans le nord de l'Europe, eh bien, produit peu, eh bien, sa production serait compensée par un parc qui serait plus au sud de l'Europe, qui fonctionnerait à plein régime. Est-ce que déjà l'existence du foisonnement a été prouvée? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur ça pour être sûr d'avoir toujours de l'électricité quand on en a besoin?
Alors, oui et non. Oui, c'est tout à fait démontré qu'il existe du foisonnement dans le solaire comme dans l'éolien. Il y a des courbes extrêmement claires qui montrent ce foisonnement. Je cite une étude d'Engie, il y a ce qu'on dit, qui porte surtout sur les grandes façades maritimes, hein, le fait notamment que la France ait accès à des façades qui sont plus ou moins coordonnées entre elles, l'Atlantique et la Manche, et puis une autre qui est assez déconnectée, qui est la Méditerranée, ça donne un certain foisonnement. Sur le solaire, c'est pareil. Si je prends, si vous voulez, la production d'un panneau, bah, ça va dépendre s'il y a un nuage au-dessus ou pas. Évidemment, on va passer de 20% à 80% quand le nuage va s'en aller. Mais si je prends la France entière, alors je peux avoir une France très largement couverte de nuages et une France très largement ensoleillée, bien entendu. Mais d'une minute à l'autre, je ne vais pas avoir des changements de 20% à 80% sur l'ensemble du parc français. Je vais avoir des changements beaucoup plus modérés parce que tel panneau sera sous un nuage, mais tel autre ne sera pas sous un nuage, etc. Donc oui, il y a un foisonnement qui réduit les besoins d'autres flexibilités, mais il ne les supprime pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se fier juste sur le foisonnement pour passer tous les moments. Et notamment, je vous ai parlé de ces périodes que les Allemands appellent Dunkelflaute, où il y a peu de vent, peu de soleil, des journées assez courtes, et un besoin d'électricité assez important, parce qu'il est thermosensible. Quand il fait vraiment froid, la consommation d'électricité augmente, et là, on est en difficulté, et le foisonnement ne répond pas entièrement à cette question. Mais il existe, et il l'aide beaucoup.
On a une question qui est souvent soulevée en France, parce qu'on est un pays qui est très nucléarisé. C'est l'opposition entre le nucléaire et l'éolien. Déjà, est-ce qu'il faut les opposer? Et sinon, est-ce que le nucléaire peut être complémentaire? Est-ce que c'est intéressant d'un point de vue technique et économique d'avoir du nucléaire qui s'adapte aux fluctuations de l'éolien et du solaire?
Alors, oui, encore une fois, ça va être une réponse par oui ou par non. Par oui et non. Le nucléaire n'est pas l'énergie idéale pour s'adapter à des fluctuations.
Oui.
C'est plus une énergie de, comme on dit, de base load, de fonctionnement continu, qu'une énergie pilotable en réalité. Alors, on peut quand même jouer un peu avec. L'ennui, c'est que quand on joue avec, on accélère le vieillissement des centrales, et puis on n'est pas dans la meilleure économie des centrales. Et c'est le problème qu'on a en France, où on a eu jusqu'à 78% de nucléaire dans notre mix électrique, et comme la demande varie beaucoup, avant même qu'on introduise des éoliennes ou du solaire dans le mix, on a été obligé de moduler la puissance des centrales nucléaires. On avait des outils quand même pour la moduler par l'extérieur, si j'ose dire. On avait les stations de transfert d'énergie par pompage, hein, on les a construites en même temps que le programme nucléaire, comme dans tous les pays qui ont des STEP, ça a été pratiquement en même temps que le nucléaire. C'est le cas au Japon, c'est le cas aux États-Unis. Quand il y a trop d'électricité, ben, on remonte de l'eau dans les barrages, et quand il n'y en a pas assez, on fait descendre l'eau et la turbine, on fait de l'électricité.
Je vous invite d'ailleurs à regarder notre reportage sur la chaîne YouTube Révolution énergétique, reportage dans les entrailles de la STEP de Montézic, la deuxième STEP la plus puissante de France.
Très bien. Voilà. Mais néanmoins, à 78% ou même à 70% de nucléaire dans le mix électrique, on a été obligé de moduler. Et on ne sait pas jusqu'à quel point, mais ça fait vieillir les centrales plus vite. C'est pour ça que quand on dit maintenant, on va peut-être les prolonger jusqu'à 80 ans, moi je dis attention. D'abord aux États-Unis, ils ont peut-être décidé pour 6 réacteurs de prolonger l'autorisation théorique jusqu'à 80 ans, mais pour l'instant, elles ont des centrales qui ont une cinquantaine d'années. Et on verra si elles tiennent aussi longtemps, c'est pas du tout démontré. Il n'y a aucun exemple de réacteur dans le monde qui a vécu 80 ans jusqu'à présent. Mais en plus, les centrales américaines, comme le nucléaire, il fait 20% à peu près du mix électrique, eh ben, elles fonctionnent en continu. Elles fournissent vraiment une base. Et ça, c'est éventuellement le rôle du nucléaire, c'est de fournir une base. Comment dirais-je, par rapport à un système 100% renouvelable, je comprends qu'il y a des gens que ça rassure d'avoir une base continue qui ne dépend pas de la météo. Et il y a une certaine rationalité économique. Si le prix du nucléaire est aussi bas qu'on l'envisage dans l'étude RTE, Futur énergétique 2050, parce que là, on peut montrer ce qu'ils font, qu'avec une certaine proportion de nucléaire, ça va jusqu'à 50%, mais en fait, l'avantage économique est très faible après 25-35% de nucléaire. On a besoin de moins de flexibilité pour accompagner les évolutions de la production renouvelable, c'est-à-dire les flexibilités naturelles qu'on a et qu'on va avoir dans la gestion de la demande, la gestion du rechargement des batteries des véhicules électriques, le foisonnement, les interconnexions, etc. Tout ça fait qu'on a besoin de beaucoup moins de batteries stationnaires et surtout de centrales thermiques alimentées à la fin des fins par de l'hydrogène. Et donc ça réduit éventuellement les coûts de la variabilité si on a une base nucléaire de 25 à 35%. Voilà. Au-delà, on peut, enfin, l'étude RTE montre un petit avantage économique à continuer jusque vers 50%. Après, elle dit l'optimum est plat. Mais 50%, en réalité, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire, on est aujourd'hui au-dessus, mais je ne pense pas qu'on réussisse non pas à atteindre 50%, mais à rester à 50% dans l'avenir.
Vous parliez il y a quelques instants des STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage-turbinage. On en a en France, comme vous l'avez dit, on les a construites pour notre parc nucléaire. Mais est-ce que la situation ne pourrait pas changer puisqu'on va avoir besoin d'énormément de capacités de stockage d'électricité pour suivre l'essor des énergies renouvelables? Alors ça peut passer par les batteries, mais ça passera surtout normalement par les STEP qui est quand même l'outil qui a la meilleure capacité de stockage d'électricité. Alors, et qui est plus cher.
C'est tout à fait juste. Dans le monde, il y a pour l'instant beaucoup plus de STEP que de batteries stationnaires.
Oui, parce que ça coûte beaucoup moins cher et que ça peut surtout stocker des volumes d'électricité qui sont considérables.
Oui, ça permet de stocker pour la semaine, si vous voulez, en gros. Hein, et après, ça peut aller plus loin dans certaines steppes qui sont faites sur deux grands barrages alimentés eux-mêmes par des fleuves, etc. Mais en général, une steppe, on se met à côté d'un barrage existant, qui est un grand barrage, et puis on en fait un petit à côté, mais qui va être destiné à être rempli et vidé tous les jours, voire deux fois par jour à l'avenir. Oui. Donc effectivement, ça permet sur l'année de stocker et déstocker beaucoup d'électricité, mais à chaque fois, la capacité peut être de quelques jours. Voilà, c'est souvent de quelques jours, mais ça fournit aussi beaucoup d'autres services hein, au système électrique en termes de régulation de la fréquence, régulation, redémarrage à froid. Voilà, il y a une grande centrale de ce type, STEP, d'Innervik, au Pays de Galles, je crois, qui bat le tempo pour tout le système électrique du Royaume-Uni, ou en tout cas de la Grande-Bretagne, voilà, parce que c'est un type qui permet d'inverser très très vite le sens du courant, c'est-à-dire on peut, pendant un certain temps, ça peut être la STEP qui produit l'électricité, puis la minute d'après, c'est elle qui emmagasine de l'électricité, et puis elle peut revenir, etc. C'est un type un peu spécial, conçu pour ça, elle est très grosse, plus 1 gigawatt et quelques, je crois, et voilà, elle remplit des tas de fonctions. Donc c'est très bien les STEP, et je pense qu'on peut en faire quelques-unes en France. De plus, c'est pas toujours facile, j'ai vu d'ailleurs avec intérêt que l'association Les Voix du Nucléaire préconise de faire 20 gigawatts, ce qui prouve bien que même si on fait du nucléaire, on a besoin de STEP et de moyens de régulation. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à 20. Il y a des études, les études européennes suggèrent qu'on peut en faire beaucoup. Ces études faites en regardant toutes les possibilités, en ayant exclu toutes les zones naturelles super protégées, etc. Voilà, maintenant il faut réussir à les faire, ça prend un certain temps, et pour l'instant, le problème, c'est qu'on en aura besoin, mais qu'il faut les anticiper 10 ans avant que le besoin apparaisse vraiment. Et c'est un peu ça la difficulté. Les batteries, le coût des batteries a quand même été divisé pratiquement par 10 hein, sur les 10-12 dernières années. Donc ça devient quand même intéressant. On aura dans quelques années des batteries de seconde vie qui seront plus assez bonnes pour faire marcher, pour répondre aux besoins des conducteurs de voitures électriques qui voudront, voilà, on achète une voiture électrique à 50 kWh. Si au bout de 5 ou 10 ans, mettons plutôt 10 ans, elle n'a plus que 30 kWh de capacité, les gens vont dire, ah ben j'ai plus assez de garantie d'autonomie, je veux être sûr de pouvoir aller là où je veux demain, même si souvent en fait on va utiliser 10 kWh par jour. Mais voilà, j'ai besoin d'avoir cette sécurité. À ce moment-là, cette batterie pourra être échangée et éventuellement la batterie de 30 kWh pourra resservir dans le système électrique. Oui. La question de l'autonomie ne se pose pas dans les mêmes termes, puis ce sera une batterie d'occasion, moins chère, etc. Donc voilà, il y a déjà des installations qui n'utilisent que des batteries de seconde vie. Alors la batterie, c'est très bien pour stocker l'électricité sur quelques heures, et c'est quand même important parce que ça aide beaucoup à aplatir le pic du soir. Le pic du soir, c'est le cauchemar des gestionnaires de réseau, hein, c'est le moment où tout le monde rentre chez soi, tout le monde allume l'électricité, fait marcher son four, fait marcher un peu tout, alors parfois des choses qu'on pourrait facilement différer dans le temps, mais enfin si vous faites un soufflet au four, vous ne pouvez pas facilement l'arrêter, sinon le soufflet retombe. Donc voilà, il y a des usages un peu incompressibles, les gens rentrent chez eux, mais il y a aussi des trains qui marchent, il y a aussi, voilà. Donc il y a un pic du soir qui commence vers 18h, qui se termine à... Enfin voilà, le vrai pic, c'est ça, c'est 20h, 21h. Et là, la batterie peut être très utile en aplatissant ces pics.
Dans votre livre, justement, pour revenir au STEP, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une centaine de gigawattheures de capacité de stockage hein, de STEP en France. Et dans votre livre, vous dites que la capacité, elle s'élèverait à 4000 gigawattheures. C'est absolument colossal. Mais alors, pour y arriver, il va falloir creuser énormément de réservoirs, de barrages. Est-ce que ça peut être socialement accepté? Surtout, est-ce que ça risque pas d'être attribué à l'éolien directement, comme une sorte de dégât collatéral de l'éolien?
Oui, je ne pense pas que j'ai donné ce chiffre comme étant une chose à faire. Hein. Non. Dans aucun scénario, on ne veut faire tout ça.
C'est un potentiel, vous dites que c'est un potentiel maximal.
Oui, c'est peut-être le... Alors, je ne sais même plus où c'est dans ce livre, d'ailleurs. Mais voilà, le scénario 100% renouvelable de RTE parle de passer de 5 gigawatts, alors je parle en watts, hein, je parle pas en gigawattheure, je ne sais pas combien exactement ça nous fait en gigawattheure aujourd'hui. 20 fois, donc on serait à 200. Et on pourrait aller jusqu'à 4000. En effet, je dis ça, c'est page 101. C'est l'étude de la Commission européenne, son organisation JRC, Joint Research Center. C'est une étude scientifique, mais théorique, c'est-à-dire c'est le potentiel hors protection environnementale forte, 4000 gigawattheures. Bon.
Idéalement, faudrait quand même y arriver pour avoir un maximum de flexibilité.
Non. Oui, si on peut. Oui, mais je ne crois pas qu'on puisse y arriver. Je veux dire, c'est vraiment voilà. Il y a des études de l'Université nationale australienne hein, qui donnent la même chose dans le monde entier, etc. Enfin, la même chose, proportion gardée. Non, c'est sûrement très difficile d'arriver autant. Si on pouvait, ce serait sans doute très bien. Je pense que les STEP dont parle RTE, faudrait regarder dans leur rapport exactement. Il s'agit de passer de 5 à 8 gigas, et je ne pense pas qu'ils aient parlé d'un allongement considérable des heures de fonctionnement, donc d'une extension considérable. Comment dire, ce n'est pas les STEP qui vont nous permettre de passer les Dunkelflaute, de toute façon.
D'accord.
Parce que si vous regardez le besoin d'électricité, là on peut être à 80 gigawatts pendant, mettons, 8 jours. 8 jours à 25 heures par jour pour aller plus vite, ça nous fait 200 heures d'affilée. 200 fois 80, ça nous fait 16 000. 16 000 gigawattheures. Oui, théoriquement, voilà, là on parle de 4 000 si on faisait tout. Donc ce n'est pas les STEP qui vont répondre à notre besoin. Les STEP ne permettent pas, comme les batteries, ça ne permet pas de se dispenser de backup, mais ça fait que on utilise ce backup très peu. C'est ça l'important.
On brûle moins de gaz.
Il faut ces centrales à gaz qui vont brûler un gaz éventuellement renouvelable à terme, mais il faut limiter fortement le besoin de gaz. Alors s'il est fossile, parce qu'il faut limiter le CO2, s'il n'est pas fossile, parce qu'il sera vraisemblablement cher et puis utile dans d'autres secteurs. Donc il faut vraiment le limiter au maximum. Si les différents stockages s'articulent en fonction de leur efficacité et de leur coût, mais il faut bien distinguer ce qui est le coût des machines de transformation et le coût du stockage proprement dit. Le problème de la batterie, c'est qu'il y a pas, c'est pas la transformation qui coûte cher, c'est le volume de stockage qui coûte cher. Donc on ne fait pas de batterie pour stocker de l'énergie pendant des heures et des heures. Voilà. On le fait pour stocker. Alors, en ce moment, c'est 4 heures. Alors, peut-être qu'on va monter à 8 heures, ce qui rend. Mais vous voyez ce que je veux dire? Oui. Tandis que si on veut stocker sur plusieurs jours, on va plutôt prendre des steps. Et puis si on veut stocker sur plusieurs mois pour faire face à une pétole, un Dunkelflaute, dont on ne peut pas prévoir à l'avance s'il aura lieu.
Les fameux anticyclones géants sur toute l'Europe.
Voilà, du 1er au 15 décembre, ou si ce sera en janvier, ou si ce sera en février, etc. On ne sait pas à l'avance. Donc il faut pouvoir stocker cette énergie sans qu'elle s'autoconsomme. Et puis que ce stockage lui-même, au sens du volume, soit très peu cher, même si la transformation, elle, est chère, et s'il y a une perte importante dans les changements successifs qui font électricité, hydrogène, électricité, c'est pas très efficace, mais c'est pas très grave parce que on va utiliser des surplus d'électricité qui sont quasi gratuits, on va avoir des machines, des électrolyseurs qui tournent pas souvent et des centrales à gaz qui tournent pas souvent, c'est ça qui fait le prix de cette électricité, mais elle peut être très utile. C'est un peu, si vous voulez, c'est un peu comme un groupe électrogène, mais à l'échelle du pays tout entier. Vous avez un groupe électrogène parce que vous êtes un hôpital et vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une coupure de courant qui dure. Donc, vous avez un groupe électrogène, mais finalement, il y a des années où il ne sert pas du tout. Et puis, il y a des années où ça va servir une heure ou cinq heures ou parce qu'il y a une coupure ou une grève ou je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous avez une garantie, vous achetez cette assurance, mais vous consommez très peu et donc ça reste compatible avec une décarbonation ou complète ou quasi complète de votre système électrique.
Alors, il y a une autre critique qui est pas mal d'actualité là sur les énergies renouvelables, mais aussi sur les systèmes de stockage, notamment les batteries, c'est le problème de l'extraction des matières nécessaires, notamment aux éoliennes, mais pas que. On évoque souvent les terres rares, sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Il y a quelque chose qui me surprend, c'est aussi la capacité de personnes à s'émouvoir des minéraux nécessaires pour fabriquer une éolienne, mais pas à ceux qui sont nécessaires pour la fabrication de leur iPhone, de leur ordi, de leur télé, de leur machine à laver. Est-ce qu'on est sur une indignation à géométrie variable ou est-ce que c'est une problématique réelle, celle de l'extraction des matières?
Alors, comme souvent, dans ces choses-là, il y a des petits bouts de vérité et puis il y a une instrumentalisation qui est faite de ces petits bouts de vérité par les gens qui ne veulent pas voir se développer les énergies renouvelables. Parce que soit ils adhèrent de toute leur âme à la promesse prométhéenne du nucléaire et à l'excellence française dans le domaine, soit parce qu'ils défendent les intérêts des énergies fossiles, et ce sont des intérêts extrêmement puissants dans le monde d'aujourd'hui, donc qui ont tous les moyens d'envoyer tous les trolls qu'on veut sur les réseaux sociaux et de répercuter par des dizaines de think tanks qui se copient les uns les autres aux États-Unis ou en Australie, des mensonges sur les renouvelables qui ensuite ont été repris et adaptés au contexte français par une partie du lobby nucléaire. Alors, les métaux, d'abord, ce n'est pas un problème pour l'éolien et le solaire, fondamentalement. Alors, vous allez me dire, ça en utilise peut-être plus à la construction des centrales que les fossiles ou que le nucléaire, bien entendu. Mais ensuite, on utilise un combustible qui est gratuit, qui est renouvelable, qui est purement national. Je ne comprends pas que des partis nationalistes ou patriotes ne s'en félicitent pas. C'est vraiment une aberration. Ensuite, on a un problème qui est transitoire, parce que c'est une transition. C'est-à-dire qu'il faut passer d'un système à l'autre. Ensuite de quoi, une fois que ces métaux sont sortis, ils seront recyclés et ils serviront très longtemps. Alors, je ne dis pas indéfiniment, parce qu'il faut Souvent, le recyclage n'est jamais parfait à 100%. Il faudra toujours un petit flux de métaux nouveaux pour alimenter la machine. Mais notre gros problème, c'est surtout quand on passe d'un système fondamentalement fossile, hein, je parle au plan mondial, à un système fondamentalement renouvelable, donc qui va utiliser certains métaux, surtout pour les batteries des véhicules. C'est surtout ça le problème, beaucoup plus que les éoliennes ou le solaire. Le solaire n'utilise pas de terres rares, les éoliennes maritimes peuvent en utiliser environ une tonne pour les grosses machines, parce que ça simplifie, ça permet de se passer d'un multiplicateur de vitesse et donc d'une source de panne qui sont coûteuses à réparer en milieu maritime, mais on peut faire sans les terres rares, et on utilise les terres rares dans bien d'autres choses, vous l'avez dit, les écrans de télé, les ordinateurs, les iPhones, le raffinage du pétrole, les pots catalytiques des voitures, etc., etc., etc. Donc, les éoliennes ne sont pas une raison majeure, pour l'instant en tout cas, c'est moins que le pétrole, si vous voulez, dans l'utilisation des terres rares, même si ça, j'espère, ça va devenir plus. Bon, après, il y a de l'acier et du béton. Alors, le béton, c'est 0,5%. Alors, peut-être ça va passer, si on en se met à en faire soudain beaucoup plus, on pourrait passer à 2% du béton utilisé en France. Donc, ce n'est pas le problème majeur sur la production du béton. Sur l'acier, on est peut-être à 5%. Donc, ça commence à se voir un petit peu, mais enfin, ce n'est pas encore non plus catastrophique. Le solaire, c'est encore moins de ce point de vue-là. En revanche, sur les métaux, les batteries, il y a un problème avec une poignée de métaux. On peut citer le nickel, le cobalt, le lithium. Si on regarde les questions d'exploitation et de biodiversité, vous trouverez sur le site révolutionénergétique.com un papier sur l'extraction des minéraux pour les énergies renouvelables, oui. qui n'est pas un vrai problème. Il y a des papiers scientifiques publiés par des revues scientifiques qui sont hallucinants. Je cite deux papiers. Donc, l'un évalue les surfaces impactées à 1000 fois les surfaces évaluées par l'autre. Donc c'est quand même un peu, et quand on regarde comment c'est fait, on voit toutes les raisons d'exagération, c'est-à-dire qu'on attribue uniquement à la transition énergétique, non, même à la production des énergies renouvelables, tous les problèmes liés à l'extraction d'une quantité invraisemblable de minéraux ou dont la transition énergétique représente quelques pourcents ou pour 1000 ou pour 10 000 de l'utilisation. Donc c'est vraiment absurde. On a un problème peut-être avec le nickel en Indonésie. On a un problème social avec le cobalt en République démocratique du Congo. Voilà, il y a des mineurs, il y a des compagnies minières qui font les choses bien, d'autres qui les font beaucoup moins bien. C'est évident que tout n'est pas rose au pays de l'extraction, mais en même temps, tout n'est pas rose non plus dans l'extraction du charbon et dans l'utilisation du pétrole et du gaz. On a des problèmes environnementaux considérables. Et au fond, quand on regarde l'ensemble des volumes extraits, non pas du minerai qu'on va utiliser, mais vraiment de la roche dont on va extraire le minerai, même s'il est présent à 1% ou 1 pour 1000 de ce minerai, d'un côté dans la transition énergétique et de l'autre côté dans le monde fossile. Dans le monde fossile, on extrait des quantités phénoménales de charbon. Donc, avec ce qu'on n'utilise pas, on peut multiplier par 3 ou 4, hein, pas par 100, je suis d'accord. Mais quand on compare les deux masses, eh bien, on s'aperçoit que dans la transition énergétique, le total des minerais utilisés diminue. Il n'augmente pas, il diminue. Parce que le charbon, l'utilisation du charbon, est ramené à un niveau très faible. Et ça fait plus que compenser les tonnages de roches extraites pour d'autres métaux. Je ne dis pas que du point de vue de l'environnement, c'est toujours forcément mieux, parce que les métaux, il faut les extraire de la roche et il y a des processus de raffinage qui peuvent être assez polluants, etc. Donc je ne prétends pas ça, mais je dis, en termes de volume totaux, finalement, on est mieux dans la transition énergétique que à ne rien faire.
Pourquoi on peut trouver alors des scientifiques, vous l'avez dit, des publications scientifiques, mais aussi des personnalités scientifiques qui sont extrêmement opposées aux énergies non renouvelables? On sent même que ça peut être viscéral chez certaines personnes. Je pense notamment à Jean-Marc Jancovici, vous avez peut-être lu sa célèbre BD.
Oui, oui.
Comment on peut être une personne aussi qualifiée? Il n'y a pas que lui, hein, je l'ai cité parce que c'est le plus médiatique, mais comment on peut être une personne qui a, voilà, autant de qualifications, qui est a priori engagée en faveur du climat, mais à côté aussi critique envers l'éolien et les renouvelables non pilotables en général?
Mais écoutez, il y a beaucoup, beaucoup de bêtises dans son bouquin.
Mais pourquoi?
Notamment.
C'est quoi l'objectif?
Alors. C'est un garçon qui se préoccupe sans doute du climat, qui est à la fois pro-nucléaire et décroissant. Alors, pro-nucléaire, moi, je veux bien, mais ce n'est pas une raison pour dégommer les renouvelables. Si je regarde dans les grands scénarios mondiaux, cette fois, d'atténuation du changement climatique, je vois qu'on compte sur les renouvelables pour produire 90% de notre électricité en 2050 et 10% pour le nucléaire, en gros. Donc, s'il faut comparer les deux solutions, ben il y en a une qui représente 9 fois l'autre. Bon, décroissant, j'y crois pas beaucoup non plus. Alors je veux bien qu'on fasse des efforts de sobriété sur des tas de choses, et si son livre a pu éveiller un certain nombre de gens aux nécessités de faire un peu attention à l'énergie qu'ils consomment et d'emprunter des voies plus sobres, c'est très bien. Mais je ne crois pas non plus qu'on va diviser par 10 notre économie, ou diviser par 6 l'économie mondiale, parce que c'est ça qu'il faut faire au minimum il faut diviser au minimum les émissions mondiales par 6. Et pour les pays riches, ça veut dire au minimum par 10. Je veux bien que la sobriété y contribue. Il y a quelques très rares domaines où il n'y a pas beaucoup de solutions techniques. Pour les avions, on peut faire mieux, mais à la limite, plus ils sont efficaces énergétiquement, moins ils coûtent cher, plus on les emprunte, etc. Il y a un effet rebond terrible. Donc il y a des problèmes qui sont plus ou moins sans solution, ou des solutions qui restent à démontrer, qu'on peut les mettre à très grande échelle, faire du kérosène de synthèse avec une part de biomasse et une part d'hydrogène ex-renouvelable. Oui, mais est-ce qu'on peut vraiment faire remplacer tout le kérosène d'aujourd'hui par du kérosène de synthèse? Je ne sais pas. Donc, et en tout cas, on peut sûrement pas, en démarrant maintenant, et même si on va vite, on peut pas suivre ce que nous annonçait l'Organisation internationale du trafic aérien, multiplier ce trafic par 3 d'ici 2038, si je me souviens bien. Donc, voilà, il y a des domaines, certainement, dans lesquels il faut de la sobriété, le transport aérien en est un. Il y en a d'autres, il y a manger moins de viande de bœuf, parce que c'est celle qui émet le plus de méthane. Et voilà, il y a certainement des domaines dans lesquels il faut faire des efforts de sobriété importants, mais on ne va pas réduire notre consommation d'énergie, notre production économique par 6 ou par 10. Ça, c'est pas vrai. Voilà, se dire décroissant et se dire ça va nous être imposé de toute façon par le manque de pétrole. Alors, en plus, il y a une espèce de contradiction. Il veut nous inquiéter sur le fait qu'on va pas avoir assez de pétrole, mais c'est sur des projections qui montrent qu'on en aura toujours trop par rapport à ce qu'on peut consommer pour garder un climat en dessous de 2 degrés. Donc notre problème n'est pas le manque de pétrole, notre problème est qu'on en consomme trop, et c'est un problème de climat, c'est un problème d'excès de gaz carbonique dans l'atmosphère, et pas un problème de manque de combustibles fossiles dans tout sol, sans parler du charbon qui lui est super abondant. Donc voilà, donc là moi je ne comprends pas comment il peut à la fois se lamenter sur le manque de pétrole et en même temps sur le changement climatique, préconiser la décroissance et le nucléaire comme seule solution, ce seul parachute ventral pour éviter la décroissance, et pourquoi dégommer les renouvelables comme il le fait. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il passe beaucoup de temps et d'énergie à dégommer les renouvelables, qui soulèvent certaines difficultés, je le comprendrai, mais la façon dont il tente à biaiser ou à se tromper, moi je veux bien, mais dans mon livre, je lui consacre un petit intermède, comme on dit, où je montre que, voilà, quand il nous dit qu'il faut une centrale tous les kilomètres pour fournir toute l'énergie dont on a besoin en France, c'est une réflexion qui, dès le départ, ne tient pas du tout compte du fait qu'on consomme beaucoup d'énergie primaire qui est en fait utilisé à 35% dans les centrales nucléaires ou dans les centrales thermiques, parce que ça compte toute la chaleur qui est produite, alors qu'en fait, on veut de l'électricité. Et les éoliennes font de l'électricité. Donc déjà, il en faut trois fois moins que ce qu'il dit, rien que pour cette raison-là. Bon, ben, un gars qui est polytechnicien et qui travaille sur le sujet depuis 20 ans, je ne sais pas pourquoi il commet ça, si c'est une erreur ou si c'est volontaire. Il a remarqué, il a répondu sur LinkedIn que j'avais raison sur ce point, mais qu'en fait j'avais tort à cause de la variabilité. Mais non, là encore, je n'ai pas tort à cause de la variabilité, parce que il n'y a qu'une très petite partie de cette énergie qu'il va falloir éolienne, qu'il va falloir éventuellement transformer en hydrogène pour stocker, et donc on va l'utiliser avec un rendement moyen de 35%, mais ça concerne une toute petite partie. Donc voilà, pourquoi cette erreur, je ne sais pas, faut lui demander à lui.
On espère avoir l'occasion de faire un podcast avec Jean-Marc et Jean-Claude ici à l'avenir.
Je serais ravi de faire un débat avec lui. Si
ça serait génial. On va essayer d'y travailler.
Mais je crois que des gens lui ont déjà proposé et il se dérobe. Je le regrette.
D'accord. Ma dernière question, alors elle n'a rien à voir avec des considérations scientifiques, mais une part très importante des opposants à l'éolien se fichent totalement de la production d'électricité, mais ils semblent opposés uniquement pour des raisons esthétiques. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens-là? Déjà, est-ce que vous avez une idée de la quantité de personnes que ça représente parmi le mouvement anti-éolien? Et à une personne qui verrait naître un parc éolien à 500 mètres, 1 km de son habitation, qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là?
Alors, moi je trouve que c'est extrêmement subjectif, donc je peux d'abord comprendre que des gens n'aient pas envie de voir des éoliennes, bon, pourquoi pas. Cela dit, cette préoccupation, je trouve, est extrêmement instrumentalisée. Quand on regarde les sondages, on s'aperçoit que l'adhésion aux éoliennes reste assez forte en France, genre 70%, et qu'elle est plus forte dans les Hauts-de-France, par exemple, qu'en moyenne en France. Donc, les éoliennes, c'est un peu, on les craint quand on les a pas, et quand on les a, on s'y fait assez bien. Maintenant, voilà, il peut y avoir des gens qui sont gênés, qui supportent pas le faible bruit qu'ils peuvent avoir jusque chez eux, ou le fait que ça soit illuminé la nuit, mais ça d'ailleurs on peut le régler d'un point de vue technique, on pourrait supprimer ça. Donc je peux comprendre qu'il y ait une gêne pour certaines personnes. Je ne crois pas une minute que les éoliennes à nausée aient tué 450 vaches, ce couple d'éleveurs, mais pas une minute, il suffit de lire le rapport de l'ANSES. Je comprends qu'il y a des gens qui se soucient des oiseaux migrateurs, voire de certaines espèces de chauves-souris qui volent un peu plus haut que les autres et sont donc susceptibles d'être touchés par les éoliennes. En même temps, la littérature des grandes organisations internationales de protection des oiseaux et autres montre que c'est un souci tout à fait marginal. Les éoliennes, c'est un souci tout à fait marginal et mineur. Dès lors qu'on ne fait pas n'importe quelle bêtise de les mettre en plein milieu couloir migratoire, mais voilà, ça, je crois que ça fait un moment qu'on ne fait pas ça. Donc voilà, il peut y avoir une gêne. Je constate qu'en France, elle est quand même systématiquement surexploitée par des gens qui viennent ensuite avec tout un argumentaire que les gens recopient sans les comprendre, et qui disent ça ne sert à rien à cause de l'intermittence et blablabli, et chez nous on a déjà une électricité très décarbonée. Oui, mais pour combien de temps? Voilà. Et puis moi je trouve qu'il y a quand même aussi des gens qui les trouvent belles, des gens qui les préfèrent aux lignes à haute tension, qui sont immobiles, qui trouvent que ça anime le paysage. Et moi j'ai aussi quand même tendance à dire, c'est aussi un message qu'on envoie aux générations à venir, qui est qu'on s'occupe du climat, on ne va pas laisser les choses dériver à 3, 4, 5 degrés, et c'est quand même assez important, parce que c'est un message d'espoir, et si tout le monde le voit, bah, c'est pas plus mal. Voilà. Moi, j'ai pas l'éolienne honteuse, et je ne dis pas il faut les enterrer pour qu'on ne les voit plus. D'ailleurs, c'est quand même tout le problème de la question d'indépendance. On ne peut pas faire de l'énergie chez nous sans que ça se voit un peu. Évidemment, le pétrole, c'est un peu plus facile parce qu'on va l'extraire ailleurs. Voilà, donc je peux comprendre la préoccupation esthétique, mais on a besoin d'énergie et moi je les trouve pas moches, je les trouve assez belles.
Bah, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Cédric Philibert, d'avoir inauguré le podcast Révolution énergétique. On le rappelle, vous avez publié votre livre Éolienne, pourquoi tant de haine, aux éditions Les Petits Matins, si je ne me trompe pas.
C'est ça, avec l'Institut Veblen. Merci beaucoup Hugo et à bientôt.
Mais pas de souci, je vous invite à vous abonner à notre podcast sur toutes les plateformes, à le liker, à le partager et à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Révolution énergétique. Merci encore Cédric Félibert. We'll be right back.